Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. L'école française est-elle à la dérive avec les difficultés de recrutement? L'éducation nationale a embauché de nombreuses personnes pour assurer cette rentrée. Mais des failles commencent à être révélées, comme avec cette femme de 38 ans qui s'est faite recruter dans une école primaire du Rhône. Les parents d'élèves ont découvert qu'elle mentait depuis des années sur ses CV et avait déjà été condamnée par la justice. Furieux et choqué, il témoignait ce matin sur RMC.
À 10h au téléphone, on m'a dit assis-toi, il y a quelque chose de grave. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a fait à mon gamin?
Ça sort d'où ça? Est-ce qu'on est dans un téléfilm? Ça aurait pu être un pédophile, un pervers sexuel, on voit pas un djihadiste ou on ne sait quoi d'autre?
Oui, je vais porter plainte contre l'éducation nationale et contre cette dame.
Voilà, cette dame qui était donc une fausse maîtresse d'école et qui a réussi à enseigner à des élèves pendant une semaine. Non, on rigole, mais c'est pas drôle. Ah, Benjamin Muller, vous qui avez trois enfants, est-ce que ça vous choque?
Oui, ça me choque. Après, on a eu des faux médecins, il y a des faux journalistes.
Mais ça me choque plus sur les médecins,
oui. Oui, voilà, c'est moins embêtant. Et bon, comme disait la dame très justement, si elle est pas pédophile, tout ça, enfin, je veux dire, vaut mieux qu'elle soit pas prof que pas pédophile. Mais juste vous dire que. Enfin, bref, vous avez compris l'idée, c'est pas
non,
si...
mais enfin, c'est pas grave.
Enfin, bon, moi non plus, j'ai pas compris ce que je disais. C'est pas grave. Ce que je veux juste dire, c'est quand on dit l'école française est à la dérive, sur l'organisation, c'est vrai que ça va pas du tout. Je vous donne une anecdote, c'est que j'ai un copain qui est prof de gestion, pour les lycées techniques, STI, ST, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, à la rentrée, on lui a dit, écoute, on n'a pas besoin de prof de gestion cette année, tu vas donner des cours de droit toute l'année.
Des cours de droit.
Gestion et droit, c'est pas la même chose. Le droit, c'est quand même légèrement spécifique.
Oui. Et lui a dit, mais il n'y a pas demandé philo non plus.
Bon. Oui, enfin, c'est pas du tout sa spécialité. Non. T'es prof de maths, tu deviens prof d'histoire, parce qu'il faut quand même après. Oui. Le jour même, il l'a appris, le jour de la rentrée. Donc je veux dire, il y a un.
Non, mais c'est pas possible.
Bah oui, mais pourtant, c'est. Et donc là, il donne ses cours de droit. Cela dit, j'étais avec lui le week-end dernier, il m'a dit, mais c'est passionnant le droit, en fait. Donc,
c'est pas, donc il apprend en même temps que ses élèves. Ouais, c'est formidable.
C'est un peu ça.
Non, mais enfin là, on a quand même l'impression que rien ne va plus, Thierry Moreau. Il y a quand même un truc qui dysfonctionne dans le système scolaire, quoi.
Il y a des trous dans la raquette, ça c'est clair. Le fait de.
Ça vient de le dire.
On l'a déjà expliqué plusieurs fois, il y a une double temporalité. Le temps qu'on forme de profs, qu'on les paye bien et qu'ils arrivent dans les classes, il va se passer du temps. En attendant, il faut trouver des solutions, d'où ces recrutements de dernière minute.
Tu peux traiter, tu prends des profs à la retraite et tu les payes bien, quoi.
On peut le faire. Oui, tout à fait.
Bah, ouais.
C'est ce que je disais, question de revalorisation, de revalorisation de carrière, etc. Donc il y a des trous dans la raquette. Après, des mythomanes, il y en a eu toujours partout et dans tous les milieux.
Mais
et donc,
excusez-moi, mythomane. Moi, j'entends.
Elle est mythomane parce qu'elle a prétendu être médecin aussi dans ses
CV. Non, mais très bien joué. Mais sauf qu'à un moment, si t'es directrice d'école et que tu demandes pas ses diplômes ou son CAPES ou je ne sais quoi à quelqu'un qui vient enseigner à des gamins, ou si t'es directeur d'hôpital, enfin j'ose espérer que quand tu reçois un médecin, tu regardes quand même ses diplômes.
Mais vous êtes en train de me dire qu'il y a un dysfonctionnement. Évidemment qu'il y a un dysfonctionnement.
Ah oui,
mais des mythomanes, il y en a toujours eu dans toutes les sociétés. En général, ils sont très très forts.
Oui.
Ils peuvent même vous fournir des faux diplômes éventuellement. Donc des mythomanes, ça existe. Qu'on en ait trouvé une sur le nombre de profs, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais encore une fois, il y a des trous dans la raquette avec cette rentrée qui s'est faite de briques et de rocs.
On dirait qu'on commente un fait divers alors que cela est le symptôme et la signification que l'école de la République, qui fut une des gloires de la France, est la raison de notre puissance et de notre grandeur, est en train de devenir un taudis. Et je le tiens de vrais profs, parce qu'il y a encore de vrais enseignants dans ce pays qui se battent, qui souffrent, qui sont déprimés et qui voient que l'école de la République est livrée à volo, aux vicissitudes du marché, aux décrépitudes sociales de notre époque, c'est une catastrophe. Les enfants qui vont sortir de cette scolarité-là sont ceux qui vont tenir le pays dans 15-20 ans. Mais qu'est-ce que ça va donner? On voit déjà aujourd'hui les failles, des défaillances de l'éducation nationale d'il y a 15-20 ans. On voit quand ils sont aux affaires incompétents, incultes, manque de responsabilité, enfin voilà.
Attention, en parlant des vrais profs, ne pas sous-entendre que les vacataires, pour le coup, s'en foutent.
Non, mais il y a encore des gens exemplaires. Et heureusement qu'il y a encore une majorité d'enseignants exemplaires.
Non,
mais ils s'en vont, là. Ils vont partir. Ils vont partir et ils sont
remplis.
Ils
vont partir. Vous parlez de taudis où tous les profs...
Alors, il y a des écoles, il y a des établissements qui sont devenus des taudis, au sens propre, au sens figuré. Et l'éducation nationale, qui était l'instruction publique de la République, est aujourd'hui, alors, c'est pas, mais on n'en est même plus dans le constat ou l'évaluation, que ce soit les études PISA ou ce que l'on voit, les témoignages, c'est beaucoup plus grave que tout ce qu'on peut évoquer. Le désert médical, le chômage, tout ce que vous voulez. C'est la France de demain qui est en train de se fabriquer à cet endroit-là, et la fabrication de ça, c'est la fabrique des crétins. Les citoyens français vont devenir des crétins parce que l'école est une fabrique de crétins.
Deuxième extrait dans ce zapping. Je ne veux même pas qu'on dise là-dessus. Deuxième extrait dans ce zapping.
C'est pas moi qui le dis, c'est un livre de quelqu'un de très compétent.
Oui, je sais, merci. Les GG ce matin, les Français sont-ils trop gâtés? Hier, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, a déclaré qu'il y avait peu de pays au monde qui protégeaient autant ses citoyens que la France. Un avis partagé par le chef d'entreprise Mourad Boudjelal.
Alors d'abord, je dirais pas qu'on s'en sort mieux, on s'en sort moins mal que les autres, mais effectivement, la France est un pays pour moi magnifique et vivre en France c'est une véritable chance. On est protégé dans ce pays comme dans très très peu de pays sur cette planète. Quand on voit tout ce qui se passe ailleurs, comment on est traité, on a une protection sociale extrême. Quoi qu'il nous arrive, on a un gouvernement qui est un petit peu comme papa, qui va nous permettre, qui va nous aider. Alors je parlais de droit social. Quand on est salarié, ben si vous faites des enfants, vous êtes pris en charge. Si vous vous mariez, vous êtes pris en charge. Si vous avez un décès, vous êtes pris en charge. Si vous perdez votre emploi, vous avez une protection pendant au moins un an et demi sur le chômage. La France est un pays magnifique. Il faut en avoir conscience aujourd'hui. Voyagez, regardez comment ça se passe ailleurs et vous direz, putain, qu'est-ce qu'on est bien dans ce pays.
Benjamin Muller, est-ce qu'on est trop gâté? Est-ce qu'on n'arrête pas de se plaindre pour rien finalement?
Il y a 15 jours, on faisait un débat ici même, exactement sur ce thème-là, et on était tous là à dire en gros, on a de la chance, le bouclier tarifaire est formidable, etc. Là, il y a eu un premier appel, puis un deuxième appel. Bonjour, je suis restaurateur, ma facture d'énergie passe de 20 000 euros à 200 000 euros à l'année. Ouais. Deuxième appel. Bonjour, moi j'ai une boulangerie, je sais pas comment je vais faire. Bonjour, moi je.
Et en fait, là, c'est là, je me suis dit... de la France, ça.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que si on parle de les Français, nous en tant que particuliers, effectivement, il y a les choses sont mises en place pour à peu près faire en sorte que le coup, mais pour les professionnels, pas du tout. Donc, dire que les Français sont trop gâtés, je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent en se disant, mais attends, moi je suis en train de crever la bouche ouverte.
Oui, mais on est protégé. Ce que je veux dire, c'est que on a des chèques de partout. Tu vois, pour les plus modestes, aujourd'hui, t'as le chèque alimentaire, t'as le chèque énergie, t'as le bouclier tarifaire. On n'aura pas plus de 15% de hausse. Alors, bien sûr que c'est beaucoup, 15% de hausse.
Il faut pas se comparer au dernier de la classe. Il faut pas se comparer au pays où
ben non, mais tu te compares
même par rapport à la majorité des pays européens, on est très en dessous en termes de coût de l'énergie. Oui. On devrait avoir une hausse de 100%.
Mais attention, les gens vont appeler à nouveau pour nous dire que, bien sûr, à partir de l'année prochaine, ils vont.
On en parlait hors antenne. J'ai lu que les EHPAD, par exemple, n'étaient pas encore bénéficiaires du bouclier tarifaire. Ils vont l'être là maintenant. C'était évidemment, là aussi encore, je reprends la même expression, c'est là aussi un trou dans la raquette, mais il y a évidemment des failles. On a quand même un système qui est extrêmement redistributif, extrêmement protecteur, et c'est dans les périodes de crise qu'on voit que cette protection-là, elle est quand même relativement efficace, même si, encore une fois, il y a des gens qui passent à côté, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne sont pas protégés.
De nature très orientée, tout ce que tu dis est totalement vrai. Ce n'est pas une décision politique, c'est que l'État, et nous avons une classe politique, des gouvernants, qui ont pris le choix, pour faire le choix politique, de taper dans la caisse. Il faudra le rembourser. Ça, évidemment, c'est pas l'argent qu'on a pondu et qui va...
Ouais, sauf qu'on n'a jamais remboursé les dettes, on a toujours remboursé les intérêts. Pour sauver des gens, quand même.
Mais, très bien, mais à un moment donné, là, on voit déjà les effets du Covid, quand il faut rembourser, il y a des gens qui sont dans une certaine difficulté. À un moment donné, la facture, elle va être présentée.
Oui.
Alors, c'est pas nous qui allons la payer, mais ceux d'après vont la payer. Attention, il y a quelqu'un qui va la payer. C'est pas gratuit. Là, on est en train d'en fumer les gens. Ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui vont payer à notre place. C'est clair? Mais qu'on le dise, c'est très bien. Ils vont payer à notre place et eux, ils y seront pour rien. C'est tout ce que je veux dire.
Apolline Matin, ce matin, doit-on autoriser les animaux au sein de l'Assemblée nationale? Alors bien sûr, ce débat peut porter à sourire, sauf qu'en Colombie, eh bien, ça vient d'être autorisé. Les explications de Charles Magnin.
C'est le président du Sénat, le Gérard Larcher colombien, qui l'a annoncé la semaine dernière, avec son chien sur les genoux d'ailleurs. Les parlementaires peuvent désormais venir siéger avec leur animal de compagnie. Et depuis, certains votent les lois avec leur chien ou leur chat à leur côté. Mais un sénateur a décidé de pousser le bouchon un peu plus loin. Il a débarqué avant-hier au Sénat à cheval. On l'a vu déambuler dans les couloirs, perché sur un imposant cheval blanc. Un hommage à tous les paysans colombiens, a-t-il expliqué. Bon, les autres sénateurs lui reprochaient de tourner en ridicule une loi qui est pourtant une bonne mesure, parce qu'on en sourit. Mais de nombreux salariés à travers le monde aimeraient pouvoir amener leur animal au boulot. Plusieurs études montrent que les employés qui viennent bosser avec leur chien ou leur chat sont moins stressés. Ils se déclarent plus satisfaits de leur travail et ont une perception plus positive de leur employeur.
Thierry Moron, on accepte les chiens et les chats à l'Assemblée?
Alors moi,
déjà qu'il y a beaucoup de bruit.
J'ai eu un conflit quand je dirigeais Télé 7 jours entre une personne qui voulait venir absolument travailler avec son chien, ce qui était interdit, et d'autres personnes qui étaient allergiques aux chiens. Bah ça s'est terminé, il y a quelqu'un qui a donné des gragées fuca aux chiens, ce qui fait qu'il en a fait partout. C'est devenu un truc absolument incroyable. Moi, je suis contre les animaux de compagnie au travail. Je pense que leur place n'est pas au travail. Enfin, on laisse
Michel
chien.
Drucker, on fait comment?
Eh ben non, mais Michel Drucker, c'est Michel Drucker, il
c'est
est
pas l'Assemblée nationale.
Michel Drucker, on dirait.
Je suis tout à fait contre les animaux au travail. Je pense que c'est plus un élément perturbateur qu'un élément rassurant. Et puis ça peut créer enfin voilà, pourquoi on viendrait pas effectivement avec son cheval?
Ah, moi je suis allergique.
Si demain j'ai un piton que je trouve un piton
non,
royal.
Mais là, vous dévoyez le truc. Ah, c'est pour un chat. Enfin, je sais pas quand t'amènes un chat.
Où est la limite?
Et qu'est-ce que j'en sais?
Bon, bah,
je suis pas colombienne. Donc,
la règle, c'est zéro animaux au travail.
Non, mais vous rendez compte, ouais, vous rendez compte, le loup de Poméranie de Marine Le Pen, qui mord aux couilles le caliche.
Non, non, merci.
Au testicule, le caliche de Mélenchon. Hurlement dans l'Assemblée nationale. Le pugilat.
Vous caricaturez pas, c'est formidable.
Non, mais c'est ça que ça veut dire. On amène les animaux en séance.
Mais non, mais t'as plein de gens aujourd'hui qui vont au bureau avec leurs chiens.
Pas en séance.
Mais je ne suis pas pour. Bon, ben voilà, mais ça peut arriver. Donc, est-ce que l'Assemblée nationale est un bureau? C'est ça la question?
Non.
Bon, moi, je vous trouve pas très marrant. C'est quand même mais sympa quand il y a des animaux. Moi, j'ai bossé longtemps à Europe 1, pour pas les citer, où Christophe Ondelat venait toujours avec son chien. Ça emmerdait personne. Il était
on
mignon comme tout.
On parle pas du bureau. J'aime toujours amener mes chiens au bureau.
Et ben voilà.
Je parle de l'Assemblée nationale, du Parlement.
Non, là, alors, là, on était sur
est-ce qu'on peut rentrer dans le débat?
Et ça apporte un chien ou un chat, ça apporte quand même un petit truc sympa. Alors, vrai, on n'est pas tous gaga à se faire lécher la main du matin au soir par
je
les chiens.
Déteste
chien.
Ça, là, moi. Moi, je déteste ça.
Tu vas pas te mollets.
C'est sympa.
Mais c'est sympa pourquoi?
Mais c'est une petite ambiance, un petit truc. Vous aimez pas?
Une ambiance de quoi? Mais c'est au boulot.
Moi, c'est comme quand il y a des grèves. Alors, comparer les chiens et les enfants, alors c'est un peu différent. C'est comme quand il y a des grèves et que les gens viennent avec leurs enfants sur le lieu de travail. Ça apporte un petit truc.
Je viens de comparer. Pas pareil, un enfant,
c'est ponctuel. Deux, c'est un enfant.
Et oui, un enfant, mais ça fait moins de bruit.
Oui, mais les chiens, ça apporte
pas
un petit truc.
Ça
dépend de l'âge des enfants.
Oui,
quand même.
C'est vrai. Ouais.
Sinon, il y a des couches.
Non, mais ça s'appelle des mœurs de pays exotiques. En Colombie, qu'ils amènent des perroquets, ce qu'ils veulent, leur truc, ça marche très bien.
Non, la Colombie est un pays comme un autre.
Oui, tout à fait. Mais il y a des animaux un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est normal.
C'est un zoo
énorme. C'est un paradis, c'est fabuleux, c'est normal, ça chante, ça caquette, patati. Mais l'Assemblée nationale, vous rendez compte, on prend plein débat, donc il dit je lâche Rex. Alors Rex, du RN, attaque tout de suite un député de la gauche.
C'est bon, là, on l'a.
Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais
bon, ça va se finir comme ça.
Cela dit, Gérard Larcher qui arrive au Sénat sur un cheval.
Oui.
Je veux voir ça.
Parce qu'il est, pourquoi il est vétérinaire de chevaux. C'est pour
justement.
Les GG ce matin, Yannick Jadot peut-il sauver Europe Écologie Les Verts? Invité ce matin d'Apolline, le candidat malheureux à l'élection présidentielle avait quelque peu disparu de la circulation face à Sandrine Rousseau, mais il semblerait qu'il a comme ambition de devenir sénateur afin d'être davantage sur les projecteurs. Un cumul des mandats qui insupporte le cheminot des GG, Bruno Poncet.
Non mais c'est fou, Jadot, on l'a pas entendu depuis 6 mois alors qu'il y avait quand même des sujets, hein, surtout sur l'écologie. Là, il sent que Sandrine Rousseau elle est en train de monter et qu'elle a pris vraiment beaucoup de place et que son dauphin Bayou, il vient de se faire éjecter, donc il vient. Voilà, et puis c'est un apparatchik de haut niveau, c'est-à-dire qu'il avait déjà 3 mandats, il va en faire un 4e, un 5e, parce que les mecs ils pensent qu'à ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sa vie, lui, c'est pas d'aider les Français, c'est d'être élu. Ouais, comme ça, t'es tranquille, t'es au chaud. Non, mais faut arrêter avec ces gens-là.
C'est un peu caricatural.
C'est pas vrai, c'est Thierry Moreau, ça vous choque, vous, que Yannick Jadot veuille se présenter pour être sénateur?
Non, ça me choque pas. Je trouve que pour le coup, notre ami des GG, j'aime beaucoup l'émission, mais là, le dégagisme a vraiment ses limites, quoi. C'est un peu populiste, c'est un peu facile, c'est un peu démagogique. On a quelqu'un qui a tenu la parole de l'écologie aux élections présidentielles.
Ouais, enfin, on l'a
plutôt
pas
mal,
entendu.
D'ailleurs.
On l'a pas entendu.
Non, mais.
Et vous l'avez pas écouté, Estelle.
C'est pas le pire.
Je parle du programme et c'est pas le pire. Je préfère l'écologie incarnée par Yannick Jadot qu'incarnée par Sandrine Rousseau. Excusez-moi.
Vous connaissez même pas son nom.
Ou Eva Joly.
Ou Eva Joly. Ouais. Effectivement. Donc je trouve que c'est plutôt un bon candidat, même s'il a pas, il a pas performé.
Non.
Il n'empêche qu'il veuille être candidat sénatorial, il fait ce qu'il veut. Après, c'est les électeurs, enfin, en l'occurrence, les grands électeurs qui
Si c'est juste pour avoir un coup de projecteur, c'est quand même embêtant.
Non, c'est vrai.
Pour avoir un coup de projecteur, c'est pour porter la parole de l'écologie. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts est un chantier. Enfin, c'est même un cimetière tellement
enfin,
les
comme
gens.
Comme d'habitude, c'est toujours pareil.
Non, mais... Enfin, ça veut dire qu'il se range quand même. Ça veut dire qu'il va au Sénat, il se range.
Tourne
la page, voilà. Puis il continuera à agir dans l'action politique.
Ouais, après le Sénat fait des rapports, le Sénat travaille. Il y a des sénateurs qui sont très en pointe.
Il y a Sandrine Rousseau dans une boîte.
Philippe Bas, par exemple, sur excusez-moi, il y a des affaires qui ont été mises au jour et instruites par des sénateurs. Je pense qu'on
comprend très bien. Là où il y a Sandrine Rousseau, personne n'a plus envie d'y aller. Tout le monde s'en va, on quitte le navire, c'est épouvantable. Elle est là, elle est en train de prendre possession de tout. Elle a réussi son
opération. C'est pas fait encore.
Non, mais enfin bon, c'est fini. C'est un épouvantail.
Bon, très bien.